quand j'ai signé mon contrat avec KMC, on m'a dit, notre but, c'est que tu performes, c'est essayer de t'amener au maximum de tes capacités, mais ça reste aussi que tu prennes du plaisir sur le vélo, que tu t'amuses, etc. Et ça, ils me l'ont dit directement, et ça fait partie intégrante du processus pour être heureux au quotidien dans mon sport, qui est aussi est fatalement mon travail maintenant. Mais je le prends aussi maintenant plus comme une chance d'exercer vraiment ma passion, d'aller rouler, etc.
Bienvenue dans la tête dans le guidon, le podcast qui questionne le cyclisme les mains sur les cocottes. Ce nouvel épisode est dédié à Robert Génico, fondateur de Cyclisme Revue. On reprend cette saison avec un numéro 1 belge dans sa discipline. Pierre de Froidmont n'est pas le plus médiatique des cyclistes du plat pays, et pourtant ce vététiste originaire de Theux enchaîne les prestations de choix. Vice-champion de Belgique de cross-country, 5e de la Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne, 6e de la Coupe du Monde à Petropolis, il est aujourd'hui le meilleur vététiste belge de cross-country avec une 11e place mondiale au terme de cette saison 2022. D'où lui vient cette passion pour le VTT? A-t-il franchi un nouveau cap en 2022? Peut-il rêver d'un résultat aux prochains Jeux Olympiques? On en parle dans ce nouveau numéro de La Tête dans le Guidon.
Quand je réfléchis un petit peu au commencement et puis à tout le déroulement de la saison, je veux dire, j'ai eu aucun pépin, j'ai eu aucun moment de moins bien ni rien, donc oui, je me rends vraiment compte que j'ai eu de la chance cette année de connaître une super belle saison sur plein d'aspects. Voilà, là, l'heure est un petit peu au bilan, à comprendre aussi pourquoi ça a très bien fonctionné. Et voilà, en tant que sportif de haut niveau, on essaye de toujours tirer des enseignements qui soient positifs. Donc là, c'est le cas cette année, ou parfois aussi des choses qui peuvent être améliorées. Mais le sentiment global, quand tu arrives comme ça fin de saison, j'ai connu des saisons où tu étais vraiment content que ce soit fini, où tu comptais les dernières courses, où tu te disais, il reste plus qu'un mois, 2 semaines d'entraînement, la dernière semaine, et tu vois que tu arrives un peu en fin de course. C'était pas le cas. Et c'est fort lié aussi à tes sensations globales sur toute l'année. Donc, quand c'est très positif, c'est toujours plus facile dans ces cas-là de continuer, de clôturer sa saison, etc., en étant encore motivé et content de faire ça, parce que ça fait quand même 11 mois que tu as repris l'entraînement, que tu te consacres à 100% à ça. Donc non, je suis dans un beau cas de figure cette année par rapport à tout ça.
C'est ça qui a changé cette année, c'est le fait de ne pas connaître de blessures, de pépins physiques sur le moyen terme.
Ouais, je dirais que j'ai jamais connu vraiment de longues périodes où j'avais été blessé ou écarté de l'entraînement et des compétitions, mais j'avais été un petit peu plus irrégulier les autres années, et c'est vrai que ça prend plus d'énergie quand tu as des hauts et des bas. Ici, j'ai quasiment eu que des hauts, course en tête où ça a été plus compliqué, ou après aussi la semaine, j'ai dû me remettre un peu plus en question. Un peu plus consacré d'énergie à ça, mais sinon, ça a été vraiment une belle progression du début à la fin. Et la saison a été, entre guillemets, assez facile d'un point de vue comme ça, énergie et tout. C'est pour ça aussi que fin d'année, je suis déjà limite impatient de me remettre au travail et d'être déjà l'année prochaine, quoi. Donc ça, c'est souvent bon signe.
Est-ce que ce qui a changé aussi, c'est ton transfert chez KMC Orbea? Excuse-moi, j'avais en tête BMC, je ne sais pas pourquoi. Du coup, donc KMC Orbea. Est-ce que justement, c'est ce transfert et une autre vision de la vie professionnelle?
Oui, ça a joué quand même beaucoup, j'ai l'impression, parce que j'étais depuis 6 ans chez BH Wallonie, et dans l'ancienne structure, donc BH, j'étais le seul coureur professionnel. Donc j'avais déjà un compte avec l'ADEPS, donc je ne faisais déjà plus que ça. Et le reste de l'effectif, soit était encore aux études, ou soit ne faisait plus rien vraiment à côté, mais n'avais pas non plus vraiment le statut de professionnel. Donc là, je commençais à être bien habitué, à être dans un certain confort, etc. Et là, de changer dans une structure où bah, tout le monde est professionnel et où tout le monde ne fait que ça, et où c'est vraiment bah, le job de tout le monde d'essayer que l'équipe performe et soit tirée vers le haut. Et c'est clair que moi, je me suis retrouvé dans ce noyau-là. Et bah, ça permet, il y a plein de changements comme ça qui font du bien quand tu travailles avec des nouvelles personnes, quand tu as des nouveaux coéquipiers, etc. Après 6 ans où tu commences à bien connaître et à savoir comment ça fonctionne, bah là, tu es dans un nouvel environnement. Donc, ça te demande aussi un peu des efforts au début. Tu dois t'adapter et ça fait au final que tu progresses et que tu deviens meilleur dans plein de domaines. Et moi, ça a été vraiment ma plus grande chance cette année, c'est d'aller dans cette équipe-là. Et j'ai vraiment eu de la chance aussi d'avoir leur confiance aussi avant cette année, parce que j'avais pas encore, entre guillemets, éclos tout à fait. Bon, ils se sont dit, OK, on va lui faire confiance, on va lui proposer un an de contrat. Et quand ça se passe comme ça, ben, c'est juste top parce que tu sais aussi que l'équipe est récompensée et ils ont eu raison de penser que tu pouvais être une chouette personne pour leur projet.
C'est surtout l'expérience, justement, qui a changé. Au-delà d'une question de changement d'équipe, de changement matériel.
Tu veux dire quoi par expérience? Expérience de l'équipe?
L'expérience de l'équipe et l'expérience des équipiers, etc.
Ben oui, moi je dirais que c'est ça. Parce que tu ne le sens pas directement, ou c'est pas du jour au lendemain que tu sens que tu es devenu meilleur à cause de ça ou ça, parce que tu baignes dans un environnement où l'équipe a 10 ou 15 ans d'expérience, elle a travaillé avec plein d'athlètes, des dizaines d'autres athlètes, et tu sens que l'équipe a forgé comme ça un certain savoir-faire. Un peu comme chez Quickstep ou dans des grandes équipes comme ça sur la route, où dès que tu es intégré dans ce noyau-là, bah, tu es obligé de progresser. Les gens autour de toi ont le savoir-faire, ont l'expérience, ont connu tellement bah, oui, de bonnes courses, de coureurs différents, de tous les profils, etc., que bah, toi, tu arrives là-dedans et ça te fait devenir meilleur assez naturellement, quoi.
Je vais essayer de revenir un peu en arrière, justement, sur tes débuts. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie d'aller plus tôt vers le monde du VTT?
Par rapport à la route ou par rapport même à d'autres sports,
Ou même par rapport à d'autres sports, justement. J'allais revenir sur la question de la route après, mais...
ben c'est j'ai vraiment eu oui une accroche particulière. J'ai découvert le VTT vers 10-11 ans, donc je vais dire que c'est assez commun dans pas mal de sports quand t'es jeune et que tu touches un peu à plusieurs choses. Moi, j'ai reçu un vélo et j'ai roulé et tu sens que, ben oui, j'ai senti assez vite que j'avais une accroche particulière avec ce sport-là, parce que ça me permettait de m'évader quand même beaucoup, de passer du temps dans la nature. C'était vraiment un truc hyper important pour moi. Ouais, c'était simplement aussi un sport où les qualités peut-être un peu physiologiques et tout que j'ai se sont mises en avant. Je prends par exemple l'exemple du foot. J'ai joué foot, bah, oui, j'avais quand même une bonne condition physique, mais techniquement, j'avais pas ce qu'il fallait. Tu peux le sentir assez vite. Et donc, ouais, tu te dis, là, ça va être compliqué de vraiment prendre du plaisir. Et là, en VTT, ça a bien matché directement. Donc, tu vois que t'aimes le sport, que tu arrives à allonger tes sorties, que t'en as pas marre. En fait, que le lendemain, tu as envie d'y retourner. Et les premières compétitions sont super bien passées. Et ça, c'est un peu déterminant quand tu découvres le sport, vraiment le cross-country que je fais actuellement, et que bah, directement, tu es avec les premiers, tu es dans le bain et que ça te semble assez naturel. Ben voilà, je veux dire, tu as le pied à l'étrier et puis ça commence par là, quoi.
Est-ce que justement ça a été facile de trouver des compétitions quand on est jeune? Enfin, on a l'impression que le VTT en Belgique francophone, c'est pas encore forcément une discipline qui est fortement mise en avant. Il y a certes Oufalize, mais sinon ça reste assez limité, non?
Oui, mais j'ai eu aussi de nouveau de la chance à ce niveau-là. En gros, il y a un challenge qui s'appelle le Kids Trophy qui reprend 8 ou 9 manches. Donc ça va bon, des enfants en dessous de 10 ans jusqu'à la catégorie minime 14 ans. Et en fait, bah, il y a une des 8 ou 9 manches qui est organisée dans mon village. Donc bah, j'ai et qui était organisée en fait par le club, mon premier club de vélo organisait bah, la manche là-bas dans mon village. Donc ils ont proposé aux jeunes du club, dont moi, ben voilà, le club organise la course, n'hésitez pas à vous inscrire, au moins vous aurez une première expérience en compétition. Donc c'est un peu tombé comme ça de nulle part, je me suis inscrit et on m'a fait rentrer un petit peu dans ce système-là de course. Et l'air de rien, Wallonie, il y a quand même des calendriers, il y a des courses qui sont organisées un peu dans toutes les provinces en Wallonie, aussi dans la province du Luxembourg. Enfin, il y a quand même des choses, les jeunes découvrent le VTT.
Ok. Et par rapport à la route, justement, qu'est-ce qui fait que, justement, le VTT, ça a été plus une envie pour toi que la route?
Ben, j'ai eu la chance quand même chez les jeunes de faire quelques courses sur route pour essayer et puis aussi un peu dans une optique d'entraînement, de perfectionnement, etc. Mais j'ai vraiment perçu ça comme deux sports totalement distincts avec ses propres codes, ses propres façons de rouler. Et en fait, j'ai pas vraiment compris exactement ce sport-là. Tu vois, je vais mieux faire la course, je vais sentir un peu les choses. Et là, sur la route, en fait, même après 2, 3 ans où je faisais quand même, je sais pas, entre 5 et 10 courses par an sur la route, ça me paraissait totalement étranger. J'arrivais pas, il y a des courses que j'arrivais pas à terminer parce que c'est un monde totalement différent, beaucoup plus tactique aussi, où il faut, ça a ses codes et ça a une façon de rouler, etc. en vélo qui n'est pas du tout la même qu'en VTT. Donc, bah, je me suis juste pas vraiment amusé et j'ai pas été bon. Je crois que si j'aurais gagné des courses sur la route quand j'étais jeune, ben probablement que je serais sur la route aujourd'hui. Ouais, j'ai essayé, ça n'a pas vraiment fonctionné et je suis pas sûr que si je refaisais une course sur route demain, j'en aurais vraiment compris tous les codes non plus. Donc voilà, c'est fait comme ça.
Et au niveau justement des disciplines du VTT, bah, on a parlé du fait que dans votre village c'était plutôt du cross-country qui avait été mis en place. Est-ce que vous avez déjà eu des envies d'aller plutôt vers la descente ou même plutôt, je vais dire, des autres disciplines telles l'éliminator ou plutôt du marathon?
Honnêtement, pas vraiment. Le cross-country, ça a toujours été un truc qui m'attirait parce que il y avait une partie technique, mais aussi vraiment une partie physique et préparation, etc., entraînement qui me parlait beaucoup. Descente, je suis toujours actuellement, j'ai regardé et tout, mais je vais dire pas assez de.
C'est une autre technique.
Oui, c'est ça, pas assez de technique, pas assez d'engagement, en tout cas, pour vraiment être bon là-dedans. Le marathon, ça, j'ai pu essayer quand même beaucoup parce qu'à un moment donné, les poids qu'on gagnait sur les cross-country et sur le marathon étaient similaires. Donc, mais là, pareil, je me suis toujours rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Et par exemple, ici, début de saison, en février, j'ai fait un marathon c'est une course par étapes, donc avec des étapes un peu plus longues et tout. Et bah oui, je vois que je suis performant 1h30, 2 heures, mais que comparé aux vraies qualités qu'il faut pour être un bon marathonien, bah c'est pas vraiment dans mon ADN, c'est pas vraiment ça qui me correspond en tout cas. Mais c'est une discipline, par exemple le marathon, où je prends quand même du plaisir et où je sais que plus tard, quand j'aurai peut-être un peu moins d'explosivité, si je cible un peu mieux mon entraînement, c'est quelque chose dans laquelle je pense être bon et prendre bah, davantage de plaisir qu'être là et devoir me battre peut-être pour rentrer dans le top 30 face à des gars qui en cross-country sont très loin mais qui sur leur discipline de prédilection, le marathon, sont devant et sont très bons. Mais c'est une belle discipline parce que les étapes sont longues, c'est plusieurs heures sur le vélo, c'est vraiment une gestion de course aussi qui est très différente par rapport à nous. Donc j'apprécie, mais pareil, pas vraiment. Pour l'instant, au poids de me dire, OK, j'ai envie de tenter ça, quoi.
Ah oui. C'est souvent aussi des disciplines, en tout cas le marathon, où on a l'impression qu'il faut un peu plus d'expérience et un peu plus de caisse et que ça vient peut-être plutôt en fin de carrière qu'en début en tout cas.
Tout à fait, exactement. Il faut un peu plus de caisse, d'expérience. C'est plus facile, je pense, de passer marathonien que de faire en nous en tant que sport comme le cross-country que l'inverse, quoi, parce que nous, fin de carrière, on est un peu moins explosif, on a plus d'expérience, on est capable de tenir plus la distance. Et au final, ça va dans cette direction-là assez naturellement. Maintenant, l'inverse, quand tu es plutôt à diesel et tout et qu'on te met sur un cross-country, c'est plus difficile. Mais oui, je ferme pas la porte du tout. Je crois que c'est quelque chose, quand j'aurai plus ce qu'il faut ou plus la motivation pour vraiment m'entraîner pour le cross, c'est quelque chose que je pratiquerai probablement, dans le futur, ouais. Oui, je dirais que c'est venu progressivement pendant mes années espoir parce que chez BH, donc qui était l'équipe Mérida avant, donc soutenue par une autre marque de vélo, il y avait un athlète ici régional qui s'appelle Sébastien Carabin, qui est lui le seul professionnel en VTT en Wallonie, et il avait le contrat ADEPS, en gros que j'ai maintenant. Bah lui en bénéficiait il y a quelques années, et donc c'est un petit peu à son contact que je me suis rendu compte, ok, c'est possible quand même, quand on a un certain niveau, de vivre du VTT en Wallonie et en Belgique de façon générale. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai fait mes études supérieures de 3 ans à Liège en éducation physique, et pendant ces études-là, je me suis simplement dit, j'ai pas fait les choses en me disant après il y aura une carrière de vététiste pro qui t'attend, mais tu vois quand même que tu as des compétences là-dedans. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye de m'accrocher et faire les deux. J'avais pas envie de lâcher le vélo, quoi. Donc j'ai eu terminé mes études et je me suis dit à la fin, bon ben voilà, j'ai mon diplôme, je vais essayer de postuler, etc. Parce que j'avais pas non plus fait une super saison, me dire ok, là je suis sûr de passer pro à la fin de mes études, c'était pas trop ça. Donc oui, c'était déjà plutôt dans une autre optique professionnelle, quoi, celle de mes études, celle de travailler et rentrer vraiment dans la vie active. Et puis ben, juste après que j'ai réussi mon travail de fin d'études, j'ai appris que j'allais bénéficier d'un contrat à temps plein, donc que j'allais pouvoir en faire mon boulot. Donc ça, c'était top pour moi parce que pendant mes études, j'ai jamais eu la pression de me dire non, il faut que tu passes pro, il faut que ça réussisse. Donc j'étais juste là, bon, ok, je vais essayer de continuer dans le vélo parce que ça me plaît, je vais voir jusqu'où je peux aller. Et puis bah là, la bonne surprise à la fin, voilà, tes études, bah, non, tu ne travailleras pas dans l'enseignement directement. On te donne la chance de faire que du vélo. Donc c'est tombé parfaitement. Il faut un peu de chance aussi, et j'en ai eu avec l'ADEPS, et voilà. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu parti dans ce monde-là du vélo, quoi.
Dans une interview, justement, j'avais lu que vous disiez, oui, le monde professionnel m'effrayait un peu. Qu'est-ce qui vous effrayait, justement? C'était le fait de pas être certain d'être au niveau?
Ben, oui, je ne me souviens plus exactement de cette interview-là, etc. Mais quand j'y repense comme ça brièvement, je pense que probablement le fait de ne faire que ça et que le vélo devienne la priorité, je vais dire, de la journée, des mois pendant la saison. Et bon, j'avais connu le vélo comme une activité secondaire pendant mes études, etc. Donc ça me prenait du temps, mais pas non plus incroyablement beaucoup. Et là, ben, ça allait devenir quand même principal. Et quand ça reste un boulot, quoi. Performer, qui est quand même fort axé sur les résultats, parce qu'on sait quand même bien que dans le sport de haut niveau, c'est quand même fort là-dessus que les équipes ou les fédérations se basent. Donc, ça demande un équilibre. Et ben, ouais, quand tu ne fais, entre guillemets, que ça, j'avais un peu peur peut-être de me perdre là-dedans. Et bon, cette année, j'ai aussi trouvé un bel équilibre et ça m'a permis, donc ok, oui, je suis pro, il y a le vélo, mais il n'y a pas que ça, donc c'est peut-être ça un peu, je pense, qui me faisait peur au début, le fait de ne pas trouver justement cet équilibre-là, ou de ouais, d'en faire trop, ou de trop me comparer, ou de ouais, de pas être à l'aise avec tout ça.
Et cet équilibre, justement, vous avez l'impression, on en parlait au début de l'interview, que cette saison, vous l'avez un peu trouvé. qui a moins de pression sur les épaules?
Oui, en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que les années passant aussi, ici, c'est la troisième année, je pense, que je ne fais que ça. Oui, ça doit être ça. C'est beaucoup plus facile à gérer que la première année où tu as un contrat temps plein et où qu'on dit, bon, voilà, tu reçois ton salaire, pas du moins, la priorité, c'est le vélo. Là, maintenant, je commence à voir un petit peu comment ça fonctionne et donc, c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi. Mais aussi, l'équipe a un grand rôle là-dedans. Et quand j'ai signé mon contrat avec KMC, on m'a dit, notre but, c'est que tu performes, c'est essayer de t'amener au maximum de tes capacités. Mais ça reste aussi que tu prennes du plaisir sur le vélo, que tu t'amuses, etc. Et ça, ils me l'ont dit directement. Et ça fait partie intégrante du processus pour être heureux au quotidien dans mon sport, qui est aussi est fatalement mon travail maintenant. Mais je le prends aussi maintenant plus comme une chance d'exercer vraiment ma passion, d'aller rouler, etc., que comme un métier qui. J'ai l'impression que si je le prends comme un métier, ça va engendrer toute une multitude de pressions autour, alors qu'au final, si je le prends comme une chance juste de pouvoir pratiquer ma passion dans les meilleures conditions possibles, ben ça me fait pas mal redescendre de pression et d'attente et tout que j'ai ou que l'équipe peut avoir. Donc, ouais, c'est facile maintenant qu'avant.
Et comment ont un peu évolué vos objectifs justement depuis vos débuts professionnels? Est-ce que avec ce nouveau contrat qui est arrivé, vos objectifs ont évolué ou alors vous êtes resté plus ou moins sur la même ligne durant ces 3 dernières saisons?
Je dirais que je suis resté un petit peu sur la même ligne, même si cette année, ça a quand même été un petit peu déclencheur d'autres choses. En gros, je crois que les 2 premières années, je me disais, bon, je fais mon possible, voilà, j'essaye vraiment de tirer le meilleur de ce que je peux faire. Mais c'était chaque fois un an après un an. Après l'évaluation de l'ADEPS, on me disait, bon, OK, allez, là, ton contrat est prolongé. Donc, je me disais, ça peut se terminer en fait cette année. Allez, on va essayer de prolonger d'un an et puis un an. Et là, c'est la première année, vu que j'ai fait des résultats aussi où je me suis quand même vraiment, j'ai fait un bond, je me suis rapproché un petit peu dans la hiérarchie de mon sport, où ben, on a commencé à parler ben, d'objectifs un peu plus lointains. Donc là, j'ai signé un contrat de 2 ans. Donc je sais déjà que pour les deux, c'est un petit peu comme si avant, j'avançais une case par une case, et puis là, c'était déjà un petit peu plus lointain. Et ici, j'ai déjà l'esprit tourné vers 2024. Je vais en Grèce vendredi faire des compétitions, bah déjà pour accumuler des points pour les Jeux de 2024. Donc, voilà par exemple un objectif. Avant, c'était des petites choses, année après année. Bah ici, voilà, maintenant que je suis un peu dans le système, contrat de 2 ans, plus gros objectif, championnat du monde. Jeux olympiques, peut-être essayer de mettre un plan sur plusieurs années pour permettre de me qualifier et tout. Donc c'est, oui, ça a augmenté ben, grâce au niveau aussi qui s'est élevé et grâce à l'équipe, etc. Donc on est sur quand même une démarche un peu plus à long terme et encore un petit peu plus professionnelle que ce que j'ai pu connaître avant.
On parlait des objectifs. J'imagine que les Jeux Olympiques de 2024, ça reste le grand rendez-vous. Ou alors on se dit, bon, là déjà en Coupe du Monde, j'ai bien amélioré mes résultats, en Championnat du Monde aussi. Est-ce que ce serait plutôt un podium d'abord d'imaginer?
Ben oui, cette année en tout cas j'ai coché déjà énormément de choses que je voulais ou que j'espérais ou que je rêvais de vivre. Donc l'année passée sur la dernière Coupe du Monde j'avais fait 17e et je m'étais dit oh le top 15, top 15 en Coupe du Monde ça commence à être sérieux, ça me plairait. Et cette année par exemple j'ai connu plusieurs top 10, j'ai toujours été très régulier. J'ai connu aussi la joie de monter sur le podium à Mont-Saint-Anne au Canada où je fais 5e. Donc, podium en Coupe du Monde élite, je mesure vraiment la chance que j'ai d'avoir vécu cette belle journée de vélo pour moi. Et pour moi, il peut maintenant se passer plein. Enfin, oui, je peux avoir un accident demain, je ne me le souhaite pas, mais il peut se passer, même si ma carrière s'arrête demain, j'aurai quand même vécu des très belles choses grâce surtout à cette année. Et donc, Oui, j'ai cet objectif-là d'arriver à me qualifier pour Paris, pour les Jeux, déjà y participer. Je crois que c'est le but de chaque athlète quand on lui permet d'être professionnel. En termes de résultats, c'est sûr que bon, une médaille olympique, ça peut parler tout ça, mais bon, là, ça me paraît, enfin, j'y pense pas vraiment et tout. Je suis vraiment déjà dans le truc de me dire, essayer de se qualifier, y aller. Ça justifierait quand même beaucoup d'investissements. Ce serait beau quand même pour toutes les personnes qui m'ont aidé, etc., déjà d'y aller, que je puisse rouler la course. Et puis, bon, on verra un petit peu si jamais j'arrive à me qualifier, à avoir mon ticket, ce que je peux faire là-bas. Mais en annexe de ces Jeux Olympiques, il y a déjà eu les Coupes du Monde où j'ai pu vivre, bah oui, top 15, top 10, podium. Dans les trois premiers, c'est sûr que ça reste un rêve aussi. Gagner une Coupe du Monde, c'est ce que tous les vététistes dans mon sport rêvent de connaître un jour. Voilà, on ne sait pas. Je suis encore plus ou moins jeune dans ça. Il y a les meilleurs ont parfois 30, 35. Donc, il me reste normalement quelques belles années devant moi.
C'est ce que j'allais demander justement, est-ce que vous sentez une marge de progression encore à 25 ans, a priori justement, n'est pas encore en pleine maturité dans ce sport. Est-ce que vous vous dites, OK, là, je sens encore que j'ai quelques saisons pour progresser?
Oui, je sens que forcément que physiquement j'ai encore une marge et que avec les années, en tout cas au moins jusque 30 ans, je vais me bonifier normalement encore au cours de ces saisons. Maintenant, je me faisais aussi la réflexion il n'y a pas longtemps, dans ce top 15, top 10 de Coupe du Monde, il y en a qui ont le même âge que moi, mais il y en a qui ont 10 ans de plus et ils sont là, et ils roulent à la même vitesse, etc. Donc, je crois que le défi sur les prochaines années, ça va être d'encore un petit peu améliorer ce qui peut être améliorable au niveau mental, au niveau physique, etc. Mais ça va aussi être de pouvoir rester dans ce top 10 et ce top 15, voire mieux, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent chaque année et en gros, il y a quand même des mouvements dans la hiérarchie et je sais que les prochaines années, ça va pas me faire rouler 3 minutes plus vite. Sur les courses, quoi. Je vais pouvoir gagner des petites choses et tout, mais ça va surtout être une histoire aussi de se maintenir et d'avoir encore la motivation chaque fois d'être reparti pour une prépa entière de 11 mois ou 11 mois et demi et d'être vraiment investi là-dedans. Donc, mais c'est déjà top quand tu te dis que l'écart parfois sur certaines Coupes du Monde avec le premier, c'est 1 minute, c'est 1 minute 30, et que bon ben j'espère que dans les prochaines années, ça me permettra d'aller chercher ça et combler ces petits détails et ces petites secondes qui manquent encore un petit peu pour être tout en haut, quoi.
Ces dernières saisons, on a eu beaucoup de coureurs qui traversent les disciplines, qui vont de cyclocross, route, VTT. Est-ce que vous, justement, quand vous êtes vététiste pur, je vais dire, vous êtes vraiment que dans cette discipline, est-ce que vous voyez l'arrivée de ces coureurs comme Tom Pidcock, Mathieu Van Der Poel, comme une possibilité de faire grandir la discipline ou une frustration de se dire, ouais, mais ok, ils arrivent comme ça, ils viennent choper nos médailles, nos victoires.
Moi, je vois ça vraiment comme une chance pour la discipline. Ça met déjà en lumière notre sport. Donc ça, c'est déjà génial. Et tous ces coureurs-là, c'est top de les voir venir se frotter aux spécialistes de notre discipline. Et c'est génial d'avoir des courses où ils sont là aussi. Et je pense que notre sport a besoin de ces coureurs-là et à apprendre aussi de ces coureurs-là. Dans leur façon de multiplier les disciplines, de jongler entre un programme et l'autre. Non, moi je trouve ça vraiment génial et ça ajoute vraiment, que ce soit médiatiquement ou sportivement parlant, ça ajoute une saveur à la discipline et ça attire en fait le niveau du sport vers le haut. Et c'est génial d'avoir des Pidcock, des Van Der Poel, des mecs comme ça sur les Coupes du Monde, sur les Championnats du Monde, sur les Championnats d'Europe. C'est top, on a besoin. Plus les coureurs sont bons et mieux c'est pour la discipline. Et non, moi je vois vraiment ça d'un bon œil. Et je comprends aussi parfois que certains avis soient différents. Par exemple, aux Championnats d'Europe où tu as par exemple un Pidcock qui vient, il n'a pas vraiment fait de course, il vient, il claque la médaille, ben oui, mais il était le coup. sur un VTT, c'est un artiste et il a été champion olympique aussi parce qu'il faut reconnaître qu'il est parmi les meilleurs VTTistes du monde et sa médaille d'or, il la mérite. Ce jour-là, il était le plus fort et il a fait du bien en VTT aussi parce que c'est des grands noms, c'est des stars et le VTT a besoin aussi de stars et non, non, moi je vois vraiment ça d'un très bon œil personnellement.
Vous, justement, vous avez eu des inspirations du passé. Je sais qu'au niveau belge, on a souvent parlé de Philippe Meyrague, mais bon, ça a déjà presque 25 ans aussi. C'est plus les années 2000-2004. Vous avez des inspirations comme ça qui viennent du VTT?
En Belgique, assez peu parce que bon, on sait bien, le VTT a jamais été très médiatisé, etc. Donc, on se tourne quand même rapidement vers ce qui se fait à l'étranger, sur les Coupes du Monde et tout. Donc, oui, je pense qu'un gars comme Julien Absalon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. Même Shorter, il est là depuis des années. C'est comme ça les têtes d'affiche. De l'ancienne génération, je vais dire, et ben, ils ont fait énormément de bien aussi parce qu'ils ont toujours montré une belle image de sportivité, du sport, ils l'ont énormément aidé à se développer. Donc oui, c'est ces gens-là que j'ai regardé sur les courses, dans les magazines, dans tout ça. Chaque année, je me dis que j'ai de la chance parce que bon, j'ai pu les croiser, j'ai pu discuter avec eux, j'ai pu rouler avec eux. C'est des gars que j'admirais. Bon, jamais j'aurais pensé que c'était capable de. C'est ça, ça allait être capable de rouler dans la même course. Et bon, là, j'ai eu plus que ce que j'aurais. C'est. Non, non, c'est top.
Et justement, comme on parlait des multiples disciplines, est-ce que vous auriez envie d'aller aussi vers d'autres disciplines? Je pense par exemple à Clément Horny qui va aussi vers le cyclocross. Qu'est-ce que vous, ça pourrait être aussi quelque chose qui vous intéresse? Le cyclocross, le gravel ou d'autres?
Alors, le cyclocross, ben justement, grâce à tous ces coureurs qui font un petit peu toutes les disciplines et qui mélangent un petit peu, je me dis quand même que je pourrais essayer, voir un peu ce que ça donne, mais pas vraiment, enfin, plutôt dans une optique de préparation, voir si, comme ça, quelques courses, entretenir un petit peu l'hiver sur des compétitions, ça pourrait être intéressant pour la saison d'après. Je pense pas avoir le support nécessaire ou en cyclocross, il faut beaucoup de choses autour, etc. C'est pour ça que Flandre, bon, c'est très différent du cyclocross en Wallonie où c'est vraiment encore un peu à la bonne franquette et très très à la débrouille, quoi, je vais dire. Mais oui, ça, pourquoi pas? C'est vrai que ça m'attire un peu de plus en plus d'essayer l'hiver. En termes d'entraînement, je suis intéressant de voir ce que ça peut donner. Et ici récemment, en fait, j'ai découvert, on m'a prêté un vélo de gravel, j'ai découvert ça. Et bon, dans un premier temps, je pensais que c'était surtout un phénomène de mode, un petit peu quelque chose qui était arrivé comme ça. Et les gens s'y mettaient parce que voilà, ils avaient surtout envie de faire un peu comme les autres. Et puis j'ai essayé ça et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, je vais en demander un cet hiver pour l'entraînement, parce que je sens que ça peut apporter vraiment une plus-value. Moyen aussi de varier énormément l'entraînement, puis c'est super fun à rouler. Et ici, j'ai regardé avec attention le champion du monde gravel et je me dis que c'est un truc que je rêverais de faire aussi parce qu'un mix génial entre la route, le VTT, le cyclocross aussi, parce que la position est quand même fort comme en cyclocross, j'imagine. Et ouais, c'est trop bien qu'il y ait des choses encore comme ça qui arrivent et peut-être découvrir à 26 ou 27. Une nouvelle discipline où on n'a pas trop de pression de résultats ou quoi, mais juste prendre ça comme préparation, comme entraînement, comme découverte. Ouais, c'est le gravel m'attire beaucoup et je pense que je vais faire quelques compétitions peut-être l'année prochaine de ça si ça se développe bien en Belgique et pourquoi pas cyclocross dans 1 ou 2 ans un peu l'hiver pour essayer aussi, ouais.
Pour terminer un peu l'entretien, donc vous avez été formé justement au niveau wallon. Est-ce que vous voyez justement qu'il y a une véritable envie de mener une politique pour le VTT en Wallonie et une politique de formation justement auprès des jeunes, ou c'est encore très timide à ce niveau-là?
Alors, oui, moi, de mon point de vue, je crois que il n'a jamais eu de choses, autant de choses mises en place pour aider les jeunes, pour leur permettre d'aller sur des compétitions, pour former des entraîneurs, pour s'occuper de ces jeunes-là. Si je fais un peu un retour en arrière, moi, de mon temps et je vais dire, enfin, mon temps quand j'ai découvert un petit peu le Team Wallonie et ce qui est les premières compétitions aussi un peu à l'étranger, etc., ou les premiers entraîneurs formés, donc c'était plus ou moins il y a, je sais pas, 10 ans ou quelque chose comme ça, ben, on a quand même fait des vrais progrès, je trouve, à ce niveau-là. Et ça reste un petit monde. Il y a, je vais dire, pas des centaines de personnes qui œuvrent, je vais dire, dans la fédération, etc., en Wallonie pour le VTT, mais je pense qu'on a des gens compétents à certains postes clés et ça ajoute quand même une belle dynamique et je trouve que c'est qu'on est sur la bonne voie. Alors bon, c'est comme dans tout, c'est peut-être jamais assez, mais je trouve que si ça continue comme ça avec les efforts qu'on a fait en 10 ans, ben, je me réjouis de voir dans 10 ans, il y a encore, je suis persuadé qu'il y a encore pas mal de coureurs qui vont entre guillemets sortir et avoir la chance d'être confrontés au monde professionnel et vivre de leur passion, etc. Je suis sûr de ça. Et bon, il n'y a pas que la compétition et le professionnalisme au bout de la chaîne, je vais dire. Il y a aussi le fait d'amener des jeunes sur un VTT et simplement aller faire aller oui à les inscrire dans un club, à les inciter à rouler, à être peut-être des bons VTTistes du dimanche, c'est très bien aussi. Donc tout ça aussi par une vraie dynamique de la fédération. Et moi, je trouve en tout cas personnellement qu'il y a des courses, qu'il y a des gens qui sont compétents et qu'il y a une vraie envie dans la fédération. Comparé peut-être à la route où en Wallonie ça a été les dernières années beaucoup plus compliqué, ben en VTT et notamment en BMX aussi, on voit que il y a quand même plutôt une courbe ascendante par rapport aux affiliés et à l'engouement que notre sport représente. Donc oui, moi je suis plutôt très très optimiste pour les années à venir par rapport à ça.
Peut-être qu'il y aura un effet Pierre de Froidmont hein, dans les prochaines années.
Ben oui, je l'espère et en tout cas c'est entre guillemets ma mission aussi. C'est d'essayer d'être le plus proche possible de certains clubs où les jeunes, etc., ben, s'entraînent et sont formés. Et j'ai comme ça quelques clubs où j'essaye d'aller plusieurs fois par saison pour les aider aussi, etc. Et quand j'ai eu la chance de passer pro et tout, je me suis senti aussi redevable vraiment par rapport à tout ça. Donc si grâce à ça, moi, plusieurs personnes, il y a aussi maintenant une fille, une féminine, Emeline de Thieu,
Oui,
qui est
aussi.
professionnelle et qui, ben, je sais qu'elle est très ouverte aussi à retourner auprès des jeunes, essayer d'aider cette formation et ajouter, je vais dire, sa pierre à l'édifice. On a en tout cas une belle génération, je pense, devant nous et en tout cas, on est nous aussi assez ouverts à ça. Donc, je crois que ça va être bien.
Merci à Pierre de Froidmont pour ses réponses et sa disponibilité. La tête dans le guidon revient prochainement avec un ou une autre invitée. Si vous avez des commentaires, des améliorations, des propositions, n'hésitez pas à me les communiquer via Twitter sur @greginco, GREGINCO. Vous pouvez également suivre l'actualité cycliste sur cyclismerevue.be et poursuivre votre découverte de podcast sur blueprint.pm. Merci à Alice VDB, alias la Mona Loca, pour le superbe logo de cette émission. Et merci à Yann Rieder, Franck Extanasier, Alain de Poncel et Jonathan Pieck pour leur soutien dans cette aventure audio. Un merci encore plus spécial est dédié à Robert Génicot qui m'a appris l'essentiel. À bientôt, Rob. N'hésitez pas à passer sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles à la tête dans le guidon et à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes de ce podcast. Et vous pouvez aussi partager cet épisode pour le faire connaître au plus grand nombre. Merci encore pour votre écoute et à bientôt sur Cyclisme Revue et sur Blueprint.